VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Kigali, bienvenue à notre journal. En Centrafrique, dernière ligne droite avant les élections générales de mercredi qui réuniront la présidentielle et les législatives. Quels sont les espoirs et les attentes des Centrafricains à la veille de ce scrutin majeur? La réponse avec notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso, qui a tendu son micro à des étudiants dans la capitale centrafricaine.
Je suis très très content. C'était l'idéal, hein, c'était l'idéal d'aller à l'élection parce que si on restait comme ça, on n'allait pas trouver la solution. Il y a une ère, on se tend vers une ère et cette ère est celle de la paix, de la réconciliation, c'est ce que je vois.
Est-ce que demain vous allez aller voter et si oui, quelles sont vos attentes?
Oui, demain j'irai voter et je suis vraiment ravi d'y aller voter car c'est le devoir d'un citoyen. Je suis tellement, tellement ravi pour ce vote car je veux vraiment que notre pays sorte de cette crise où nous sommes actuellement.
Demain, il y a finalement le premier tour de l'élection présidentielle et législative. Est-ce que vous êtes contente et quelles sont vos attentes?
Oui, en fait, je suis très contente concernant les élections de demain. Et mes attentes, j'aimerais à ce que ça se passe dans la légitimité et que ça se passe pas par fraude. Et que cela se passe, se fait dans la norme des choses et qu'il n'y aura pas des troubles demain.
Et qu'est-ce que vous attendez du prochain président?
Bon, ce que moi j'attends du prochain président, c'est que, en fait, je veux qu'il vienne, si une fois élu, qu'il vienne faire son travail et que la paix soit dans le pays, la sécurité. Qui dit la paix, ça concerne la sécurité. Que le peuple ait la libre circulation de sillonner partout dans le pays.
Demain, jour de vote dans toute la Centrafrique. Il n'y a pas de nouveau report. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'étudiant? Est-ce que vous êtes content d'enfin pouvoir aller voter?
Je pense pour ma part que je suis très très content. Et ça, c'est un début pour nous, les étudiants, dès maintenant. Et demain, je sais que c'est un début de la République centrafricaine. Nous sommes tous joyeux. Et
qu'est-ce que vous attendez du prochain président?
Ouais, ce que moi j'attends du prochain président, c'est que ce que nous attendons, premièrement, c'est la sécurité et le retour de la paix. Et maintenant, il faut qu'il jette un coup d'œil dans les éducations à Bazès et au niveau de l'université.
Voilà, c'était les propos recueillis par notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso. Merci Tatiana. Le dialogue inter-burundais en Ouganda maintenant, les représentants du gouvernement burundais, de l'opposition et de la société civile se sont retrouvés aujourd'hui autour du médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni. Chaque camp est resté pratiquement campé sur ses positions. La délégation gouvernementale a exclu toute discussion avec le CENARED, coalition des partis politiques et des groupes de la société civile opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Mais pour Frédéric Banvou Guignoum-Vira, secrétaire général du CENARED, Bujumbura n'a pas le choix.
J'ai l'impression que le gouvernement de Bujumbura n'entend pas parler du dialogue. En fait, ce sont des gens qui ont évolué dans l'usage de la force. Or, l'usage de la force, aujourd'hui, n'a pas de mise. Ça veut dire ou bien ils discutent ou bien ils partent. C'est ce que ça signifie. Et le monde devra se lier pour dire, monsieur, on ne peut pas accepter que tu continues à tuer les Burundais, les Burundaises, parce que ce sont les citoyens du monde. Donc le monde doit se liguer contre justement tel comportement. Ou bien il dialogue, ou bien il décide de partir.
Frédéric Banvou Guignoum-Vira, secrétaire général du CENARED, il était joint à Bruxelles.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le président Marc-Christian Kabore a prêté serment aujourd'hui au Palais des Sports à Ouagadougou pour un coup de projecteur sur la cérémonie d'investiture. Nous rejoignons notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Cette prestation de serment a été partagée entre l'aspect solennel et l'aspect festif. Cette prestation de serment a aussi été rehaussée par la venue à Ouagadougou de 9 chefs d'État. Les présidents de la sous-région Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal, Guinée et même un peu plus loin le Gabonais Ali Bongo.
Qu'est-ce que le président Kabore a dit dans son discours d'investiture?
Ce qui faut retenir le plus, c'est qu'il souhaite que l'autorité de l'État soit respectée dans le Burkina Faso. Puisque après l'insurrection, après les putsch, il y a un peu une faiblesse de l'État. Il y a l'incivisme. Il appelle les Burkinabés à ce que force reste à la loi. Il souhaite aussi que la 4e République dans laquelle nous sommes soit conjuguée au passé. Et pour cela, il appelle tout le monde au dialogue. Il entend faire plusieurs rencontres avec les partis politiques, les organisations de la société civile, pour que le Burkina Faso se réconcilie avec lui-même et se réconcilie avec les autres afin d'aller vers le développement.
Qu'en est-il de son programme de gouvernement?
À ce niveau, il se trouve maintenant avec une majorité suffisante pour pouvoir appliquer son programme, mais un programme qui ne sera pas forcément son seul programme, parce que ceux qui sont venus dans la majorité présidentielle auront aussi quelques points sur lesquels il faut qu'ils tiennent compte. Il a la majorité et dès demain même, le président de l'Assemblée sera choisi et on n'en doute pas, il sortira des rangs de son parti, le MPP.
Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo. Début aujourd'hui au Niger du contrôle du fichier électoral de la prochaine présidentielle par l'OIF. Quatre experts de l'Organisation internationale de la francophonie sont arrivés hier à Niamey pour des opérations de vérification de ce fichier de 7,5 millions d'électeurs. Ce contrôle avant la présidentielle de février 2016 avait été réclamé instamment par l'opposition. Et puis, fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait état aujourd'hui de l'arrêt de la transmission du virus dans le pays. Deux périodes de 21 jours, la durée maximale d'incubation de la maladie s'étant écoulée depuis le second test négatif sur le dernier patient guéri. Maintenant, la Guinée entre dans une période de surveillance renforcée de 90 jours pour confirmer définitivement l'élimination du virus.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé que l'Iran avait accompli l'une des étapes les plus importantes prévues dans l'accord sur son programme nucléaire. Selon M. Kerry, Téhéran a transféré lundi de l'uranium faiblement enrichi vers la Russie conformément à l'accord signé en juillet à Vienne avec les grandes puissances. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon M. Kerry, ce transfert porte sur un peu plus de 11 tonnes de matériaux et comprend la totalité de l'uranium enrichi à 20% qui n'avait pas encore été assemblé sous forme de plaques de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran. Moscou a confirmé la nouvelle, dit l'AFP, tout comme le chef du programme nucléaire iranien Ali Akbar Salehi. Pour rappel, l'Iran s'est engagé à ne pas détenir plus de 300 kilos de ce matériau lors de l'entrée en vigueur de l'accord de Vienne. Cet accord prévoit la limitation d'une partie de ce programme, en particulier l'enrichissement d'uranium sur une période de 10 à 15 ans. Ces limitations ne concernent pas le développement du parc nucléaire civil iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique déterminera lorsque l'Iran aura rempli toutes ses obligations à la matière, ce qui devait permettre la levée progressive des sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres pays.
Ici même aux États-Unis, un jury de Cleveland dans l'État de l'Ohio a décidé de ne pas inculper un policier blanc ayant abattu en novembre 2014 Tamir, un garçon africain-américain de 12 ans qui tenait un pistolet factice dans ses mains. Eddie Sango.
Les jurés n'ont trouvé aucune preuve des conduites criminelles de la part du policier, a annoncé lundi les procureurs de Cleveland, Tim McGinty, clôturant ainsi une année des manifestations d'activistes et des simples citoyens choqués par la vidéo de l'incident. Celle-ci montre les policiers Timothy Lohman tirant sur l'enfant quelques secondes seulement après son arrivée sur les lieux en compagnie d'un collègue à bord de leur voiture des patrouilles. La police avait été alertée sur la présence à cet endroit d'un homme portant une arme à feu. Les autorités découvriront par la suite que ce que le policier a pris pour un pistolet était en fait un jouet. Elles ont aussi constaté que l'embout orange permettant d'identifier les pistolets factices comme étant un jouet avait été ôté, lui donnant l'apparence d'une arme réelle. Des enquêteurs indépendants ont estimé que tout policier raisonnable aurait pris les jouets pour une arme à feu.
Et pour terminer, l'organisation Reporters sans frontières a recensé dans son dernier rapport paru aujourd'hui au moins 67 journalistes tués en 2015 dans l'exercice ou en raison de leurs fonctions. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.